Désolé pour les pleurs. Alors cette année, on fête les 40 ans d'un événement. Je vous rassure, ce n'est pas les miens, pas encore, mais ça ne serait tardé. Mais d'un autre événement un peu plus tragique. Vous l'avez peut-être vu, entendu. La pire catastrophe nucléaire de l'histoire, Tchernobyl. Au début, beaucoup minimisé au sein des autorités. En même temps, c'était les autorités soviétiques. On ne disait pas toute la vérité. Et en même temps, c'était aussi facile parce qu'on ne voyait pas grand-chose, à part l'explosion, hein, mais ensuite, on ne voyait rien. Rien ne laissait présager de l'ampleur exceptionnelle du danger. Il a fallu plusieurs jours pour que les mensonges se dissipent et qu'on informe enfin les gens qui étaient restés dans l'ignorance du danger de ce poison invisible. Tu peux... Oui. C'est pas grave. Merci. Pourtant, dès les premières heures qui ont suivi l'explosion, la contamination avançait inexorablement, mais silencieusement, s'infiltrant dans les terres, les corps, et traversant même les frontières jusqu'à nos contrées. Ce qui rendait la radioactivité si redoutable, ce n'est pas uniquement ses effets destructeurs sur les corps, mais son invisibilité. On pouvait marcher au cœur du danger sans même s'en rendre compte. Cette catastrophe demeure pour moi une image saisissante de certaines réalités spirituelles. Car il existe aussi un ennemi, invisible, qui agit dans le silence, loin des regards, profitant des contre-vérités et cherchant à contaminer le cœur humain. La Bible décrit cet adversaire non pas comme une menace spectaculaire, mais souvent comme une présence discrète, trompeuse, capable de semer le doute, la peur et le mensonge, sans que l'on puisse le reconnaître immédiatement. Cet ennemi, c'est le diable. À Tchernobyl, le plus grand danger était que les hommes continuaient à vivre normalement, à parader même, quelques jours après, alors que l'air était infesté de particules radioactives dangereuses. De la même manière, notre époque vit naïvement dans l'ignorance de l'existence de cet ennemi, avec ses mensonges, et donc dans une obscurité spirituelle totale. Comme si cela était sans conséquence. Pourtant, ce qui est invisible n'est pas forcément inoffensif, et ce que l'on ne combat pas finit souvent par nous atteindre profondément. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car face à ce mal invisible, il existe aussi une lumière invisible aux yeux du monde, la présence de Dieu, la vérité de sa parole et la puissance du Christ. Là où le mal se répand dans le secret, Dieu appelle son peuple à discerner, à résister et à marcher dans la lumière. Dans l'évangile de Matthieu, dont nous poursuivons la lecture, au chapitre 4, Jésus entre lui aussi dans un lieu de danger, le désert. Pendant 40 jours, il jeûne, il prie. Le voilà rempli de l'esprit, mais affaibli physiquement. C'est précisément dans ce moment de fragilité que Satan vient à lui. Il ne se présente pas avec violence ou avec une apparence monstrueuse. Il vient par des murmures, des suggestions, des raisonnements apparemment logiques. Comme une contamination silencieuse, la tentation cherche à pénétrer le cœur avant même que l'on réalise le danger. Lisons ce récit qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11.
Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir.
Ce récit de la tentation est important, car il se trouve d'ailleurs dans les trois évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Si on le replace dans ce contexte, rappelez-vous de l'épisode précédent, ce récit suit directement celui de son baptême. Dieu avait affirmé, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Mais avant de commencer son ministère public, il est conduit au désert par l'Esprit pour être confronté aux ruses du diable. Jésus est mis à l'épreuve, c'est le sens le plus direct du mot « tenter ». Il faut que la perfection de Jésus-Christ, comme homme, soit manifestée. Là où le premier homme, Adam, a échoué dans des conditions bien plus agréables, un jardin d'abondance, le deuxième homme Jésus doit être complètement victorieux dans un environnement beaucoup plus hostile. Ces versets, on va le voir, sont précieux pour nous. On trouve d'importantes leçons concernant la tentation, les méthodes de l'ennemi, mais aussi et surtout les moyens de remporter la victoire. Voyons d'abord dans une première partie les trois stratégies de l'ennemi. On l'a dit, le premier acte de l'esprit fut donc de conduire Jésus dans un lieu pour être tenté. La parole de Dieu est explicite dans les trois évangiles. Jésus ne s'exposa pas au tentateur de lui-même, mais il y fut poussé par l'esprit. Si le Fils de Dieu est confronté à l'ennemi, nous le serons aussi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous aussi, nous devons nous attendre à être assaillis de toutes sortes de mauvaises pensées, de doutes, d'insinuations perfides provenant de ce même ennemi. Le mot « diabolos », qui signifie en grec « le diviseur », fait donc ici sa première apparition dans l'évangile de Matthieu. Nous l'avons vu, le plan de Dieu a déjà été confronté à toutes sortes d'ennemis, les autorités politiques avec Hérode, les autorités religieuses avec les scribes, les prêtres, puis les pharisiens et les sadducéens. Mais voici maintenant l'ennemi le plus perfide, l'ennemi le plus rusé. C'est le même personnage que l'on retrouve dans le jardin d'Éden, sous la forme d'un serpent qui tenta Adam et Ève. Puis, un peu plus tard, sous le terme hébreu de Satan, celui qui s'oppose, l'accusateur de Job. Tous furent tentés, car Satan veut disputer à Dieu l'adoration de l'homme. Avec le diable, il y a pour moi deux pièges à éviter. Le premier, c'est de voir le diable partout. Effectivement, certaines difficultés sont le fruit d'attaques de l'ennemi. Je dois vous confier que cette semaine, j'ai pas très bien dormi. Non pas à cause des enfants, mais parce que ce texte me travaillait énormément. Parfois, certaines difficultés sont plutôt le fruit de notre péché. Notre péché qui nous éloigne de Dieu. Et là, Satan n'a pas forcément son mot à dire. Abraham en Égypte n'avait pas besoin du diable pour mentir au sujet de Sarah. Sa propre nature pécheresse suffisait à l'éloigner du plan de Dieu. Mais aujourd'hui, le danger inverse est également réel. Faire du diable un sujet tabou, ou pire, un personnage sympathique, caricatural. Le théologien anglais C.S. Lewis remarquait déjà dans son livre « Tactique du diable », écrit en 1942, mais finalement assez actuel, que Satan aime autant être ignoré qu'être caricaturé. Dans son livre, il fait parler Satan, qui donne des conseils à des démons stagiaires, et il dit ceci, je cite à la page 39, « Pour l'instant, notre tactique est de nous cacher. Je ne pense pas que tu auras trop de peine à garder ton protégé dans l'ignorance. Le fait que l'imagination moderne a fait du diable un personnage comique te facilitera la tâche. S'il y avait le moindre indice qui soupçonne ton existence, présente-lui un personnage en pantalon collant rouge. Convaincu par toi qu'il ne peut pas croire en de pareilles niaiseries, il finira par comprendre qu'il ne peut pas croire en toi. » Lewis a raison. Satan préfère avancer masqué, caché, car il sait qu'il est souvent plus dangereux derrière des costumes. Nous devons donc ni être obsédés par sa présence, ni être naïfs et ignorants quant à sa véritable nature. Nous devons le voir l'ennemi tel que la Bible le décrit. Et dans ce passage, on décrit un ennemi qui utilise des pièges subtils. Je ne sais pas vous, mais quand on demande par exemple à des gens dans la rue, voilà, si je te dis tentation, tu penses à quoi ? Ben malheureusement, hein, souvent, ils vont penser à M6, à l'île de la tentation. Et là, force est de constater que Satan n'emmène pas Jésus sur une île avec des femmes pulpeuses et des hommes bodybuildés. Attention, il est capable de faire ce genre de choses. Mais face au Fils de Dieu, il va falloir trouver des tentations plus habiles, plus subtiles. Dans ce passage, la tentation, c'est plutôt une pensée, un doute, une petite concession, une parole sortie de son contexte, une ambition nourrie secrètement. Quand l'ennemi cherche à séduire des chrétiens remplis de l'Esprit-Saint, il a plusieurs cordes à son arc. Ses flèches enflammées utilisent un poison qui entre rarement avec fracas, genre le gros scandale. Même si, encore une fois, ça peut arriver. Mais force est de constater que le plus souvent, il entre par la porte de derrière. Un poison lent qui entre insidieusement. De la séduction toujours, mais de façon subtile, perfide. Voyons ces tentations plus en détail. La première est une attaque directe contre la chair. Nourris-toi toi-même sans dépendre du Père. Tes besoins et tes désirs sont plus importants que Dieu. Quand la Bible dit « Jésus eut faim », ce n'est pas un simple gargouillement là qu'il ressent. C'est beaucoup plus fort. Satan veut battre Dieu, mais il choisit pas n'importe quel moment. Il choisit le moment où il est le plus vulnérable. Et l'ennemi agit souvent ainsi. Satan cherche des moments de désert dans notre vie. Des moments où nous sommes seuls, fatigués. Des moments de sécheresse. Des moments d'isolement, de doute. Des moments de découragement ou de faim intérieure. Des moments où nous nous posons toutes sortes de questions. Ces questions. À quoi bon ? Ta vie n'a aucun sens. Tu ne vas jamais changer. Tu es un raté. Tu as déjà échoué. Toutes ces questions, c'est souvent Satan qui est derrière. Il attaque rarement lorsque nous sommes vigilants, ou lorsque nous veillons les uns sur les autres, lorsque nous prions les uns pour les autres, lorsque nous sommes encouragés les uns les autres. Il préfère les moments où nos défenses physiques ou spirituelles sont affaiblies. Le diable interpelle Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, alors que la voix des cieux venait à peine de le dire, de le proclamer au chapitre 3. » Maintenant, Satan en demande la preuve. Il distille le doute autour de la nature même de Jésus. Il était facile pour Jésus de donner cette preuve. Mais comme homme, il n'avait reçu aucun commandement de Dieu pour cela. Il refuse les miracles qui ne se conforment pas à la volonté de son Père. Il refuse le surnaturel, malgré la nécessité légitime, à cet instant, de se nourrir. La tentation est subtile, ce n'est pas un péché que de manger pour apaiser sa faim. Par contre, ce qui peut être un péché, c'est le moyen par lequel nous le faisons. Exemple concret, un homme qui vole pour manger commet un péché, bien que son appétit puisse justifier cet acte. Telle fut la suggestion de Satan à Jésus. Ne compte pas sur ton Père. Sers-toi de tes propres forces. Sers-toi de ton pouvoir. Oui, Jésus aurait pu transformer ces pierres en un bon gros burger appétissant, mais s'il l'avait fait, il aurait mis sa nature divine au service de sa nature humaine. S'il l'avait fait, il se serait libéré de toutes les contraintes de sa condition humaine. S'il l'avait fait, il se serait à la fois coupé des hommes et de Dieu. Est-ce que nous avons ce genre de tentation ? Oui, celle de vouloir satisfaire par nous-mêmes tous nos appétits, tous nos soifs, toutes nos envies, toutes nos avidités, nos ambitions, nos désirs, nos besoins, pensant qu'ils sont plus importants que ceux de Dieu, et usant et abusant de nos propres pouvoirs. La tentation est pour nous d'utiliser et de mobiliser nos propres capacités dans le but d'être le seul bénéficiaire. La tentation pour nous est de vivre uniquement par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et de ne plus vivre sous la dépendance de Dieu, de ne plus dire cette phrase du Notre Père, « Donne-nous notre pain quotidien. Ce que j'ai est une grâce de Dieu. » On est plutôt tenté de dire hein, que si j'ai ça, c'est parce que j'ai travaillé pour ça. C'est un dû. C'est grâce au fruit de mes efforts. C'est réagir comme les Corinthiens enflés d'orgueil, dont Philippe nous parlait la semaine dernière. Mes besoins et mes désirs avant ceux du Père. La deuxième tentation est une attaque directe contre la foi. Utilise Dieu au lieu de lui obéir. La scène change maintenant. Le diable transporte Jésus dans un lieu saint, le temple de Jérusalem. Satan a ses entrées partout où l'homme peut se trouver. Et il est encore plus dangereux quand il arrive à pénétrer dans les lieux consacrés à Dieu. Et là, c'est déroutant. Satan va tenter Jésus en prenant une parole de la Bible. Le diable connaît la Bible. Le diable peut l'instrumentaliser, l'utiliser contre nous. Comment ? Un texte de la Bible, sorti de son contexte, et utilisé en prétexte, transformé en prétexte. On peut, si vous voulez, revenir sur le psaume 91. On va le lire dans sa totalité, pour vous montrer à quel point le piège est ici subtil.
Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu fais du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut.
Quel psaume magnifique, n'est-ce pas ? Satan cite le verset 11 et 12. Et effectivement, il le sort complètement de son contexte. Dieu promet de délivrer l'homme de ses ennemis. C'est ce que dit ce psaume. Mais attention, s'il reste dans l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est les versets que j'ai surlignés en jaune, le verset 2, le verset 9 et le verset 14, qui est encore plus explicite. Parce qu'il m'est attaché, le Seigneur, je vais le sauver, le protéger. Il n'y a absolument pas dans ce psaume une invitation à mettre Dieu à l'épreuve pour voir s'il agira ou pas. un gros mensonge mélangé à un petit peu de vérité. Une légère déformation, presque invisible, mais qui peut faire mouche sur quelqu'un qui connaît mal la parole de Dieu. Satan veut que nous cherchions de la même manière à utiliser des écritures à mauvais escient, pour ensuite agir stupidement. La Bible n'est pas un parachute de secours que l'on active au cas où, au dernier moment, et que l'on garde sur soi pour vivre dangereusement. Telle est la grande tentation qui nous guette, nous lecteurs et auditeurs de la Bible, vouloir justifier nos paroles et nos actes en s'appuyant sur des citations bibliques. En sortant des phrases de leur contexte biblique, nous risquons de déformer la parole de Dieu. Et peut-être pire, lui attribuer un sens, un autre sens que celui qui est donné par le texte. La tentation est donc de se servir de la parole de Dieu plutôt que de se mettre à son service. La dernière tentation est une attaque directe contre la consécration de notre âme. C'est l'attaque qui est la moins subtile. Celle qui montre combien le diable, finalement, n'a rien compris de ce qui anime le cœur du Fils de Dieu. À présent, Jésus est placé sur une haute montagne, toujours plus haut, du sommet de laquelle le diable tentateur lui présente le monde entier qui est à portée de main. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 32 à 33, il est dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Dieu le Père avait déjà promis le trône à Jésus, mais la volonté de son Père était de conduire le Fils au trône par le chemin de la croix. Le diable propose à Jésus de l'obtenir, mais sans la croix. Voilà la plus grande contamination spirituelle de notre époque. Vouloir les bénédictions sans l'obéissance, la gloire sans la sanctification, les promesses sans la croix, et donc le royaume sans le roi. Très souvent, Satan nous encourage à prendre le chemin le plus facile si on se compromet en l'adorant. Êtes-vous la team escalator ou la team escalier? La paresse plutôt que les efforts et les sacrifices? La vitesse plutôt que la patience? Tricher en contournant les labyrinthes au lieu de respecter la loi? Quelle grande tentation que celle-ci! Réussir sans le chemin de la croix. Cette tentation a fait tomber un grand nombre de chrétiens. Nous voulons les réalisations des promesses de Dieu dans notre vie sans porter notre croix. Nous voulons l'accomplissement sans le processus. Combien se sont prosternés devant Satan sans avoir le succès? Passons maintenant aux trois estocades de Jésus. Alors, je ne suis pas un fan des corridas, mais j'aime quand même cette image. Elle résume bien la situation. Comme un taureau enragé cherchant à faire tomber le matador, imperturbable et sûr de lui, Satan cherche désespérément à faire chuter Jésus, à trouver une faille, en vain. Car rempli de l'esprit, il domine l'adversaire par une connaissance parfaite de la parole de Dieu, juste jusqu'à l'estocade qui le terrassera définitivement. Une estocade avec l'épée de la parole. Car oui, connaître l'écriture est la clé de la victoire. Il est écrit, une formule qui est répétée trois fois, montre bien que ce qui va remplir les silences du désert, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous rappelle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par cette citation du Deutéronome, Jésus nous appelle à ne pas remplir notre vie uniquement de choses matérielles, mais aussi à nourrir notre vie de la parole de Dieu. Notre Seigneur répond au diable avec une arme qui est à notre disposition. Cette épée de l'esprit, cette épée à double tranchant, comme le dit Éphésiens 6, verset 17, ou Hébreux 14, verset 12. Jésus démontre la nécessité de connaître intimement et par cœur tout le conseil de Dieu. Une seule parole suffit pour faire taire le diable. Cette connaissance de la parole est d'autant plus importante qu'elle nous permet aussi de contextualiser les versets de la Bible que le diable peut instrumentaliser. Parfois, des personnes nous disent des « Dieu m'a dit que » avec des bonnes ou des mauvaises intentions. et nous prenons la direction indiquée à 100%, sans prendre le temps d'éprouver cette parole, de la méditer. Il y a un film qui est sorti au début de l'année, qui m'a beaucoup interpellé, qui s'appelle « Gourou, méfiez-vous de vos idoles », avec l'affiche résume, à mon sens, un avertissement que nous pouvons prendre pour nous. Dans notre monde évangélique, on peut trouver aussi ce genre de personnes. N'importe quel pasteur, prédicateur talentueux peuvent être aussi instrumentalisés par le diable. Séminaires géants, slogans répétés en boucle, storytelling émotionnel, promesses de réussite personnelle, proximité artificielle avec le public, et ajouter à cela les réseaux sociaux, qui vont donner une forme d'autorité quasi incontestable à la personne qui va ainsi prendre la parole. Attention à ne pas prendre pour argent comptant toutes ces paroles de personnes qui nous paraissent si géniales, si spirituelles, que, quoi qu'elles disent, on finit toujours par les croire. Je dis ça parce que de notre entourage, on connaît quelqu'un qui se fait manipuler, manipulée par une directrice de conscience, soi-disant, qui utilise des versets à tout va et qui n'hésite pas justement à influencer des personnes vulnérables qui connaissent mal la parole de Dieu. Ceux qui se servent de Dieu pour servir leurs ambitions, ou pire, ceux qui se servent de Dieu pour asservir les autres, doivent être démasqués. Et ils peuvent être démasqués par la parole de Dieu. Ces versets que l'on reçoit doivent être éprouvés par l'Esprit. Ils doivent être des éclaircissements et des confirmations de ce que l'Esprit a déjà mis sur notre cœur. La parole de Dieu tranche dans le vif. Elle ne permet pas qu'on reste dans le brouillard et la confusion. La parole de Dieu nous aide à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient du monde. Elle nous mène à Christ, elle nous mène à la vérité. Apprenons donc à bien connaître notre Dieu et sa parole. La parole de Dieu ne se contredit jamais. D'ailleurs, Satan et ses sbires ne pourront jamais instrumentaliser tous les versets de la Bible. Revenons au psaume 91. Il y a un verset que le diable ne cite pas. Et c'est bien gardé de le citer. Parce que ce verset prononce sa propre condamnation. Quel est ce verset qu'il ne cite pas ? L'avez-vous trouvé ? Ce qui est paradoxal, c'est qu'il se situe justement après le verset qu'il utilise pour tenter Jésus. Ce verset, c'est le verset 13. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Dans ce psaume, Satan se garde bien de citer ce verset. Il sait très bien que ce verset prononce sa propre condamnation. La parole de Dieu peut éteindre les flèches enflammées du diable. Il suffit de la méditer et surtout de connaître ces versets qui nous permettent justement de repousser ces attaques. La troisième tentation touche directement l'adoration que nous devons à notre Dieu. Compromets-toi et tu obtiendras tout immédiatement, on l'a dit. Jésus nous montre, en citant cette fois-ci Deutéronome 6, verset 13, que le but ultime de tout chrétien, c'est adorer et servir Dieu seul. Tout ce qui, légitime ou illégitime, empêche cette adoration est un affront à la majesté de notre Dieu. Pas de gourou entre Dieu et nous. Pas d'idole entre Dieu et nous. Pas nos amis, pas notre mari, notre femme, pas nos enfants, pas notre argent, pas notre ego entre Dieu et nous. Notre hommage va à Dieu seul. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut servir sans craindre une quelconque compromission. Plus il y a d'intermédiaire entre nous et Dieu, plus il y a de distance. Et plus l'ennemi peut s'insinuer facilement et nous éloigner de Dieu. contraire, Dieu veut que nous ayons une relation directe, faite d'intimité et de communion. Et on l'a senti tout à l'heure. Qu'est-ce qui va permettre cela ? Son esprit. Sa parole. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Enfin, le Seigneur met ensemble les mots « adorer » et « servir ». Lier ces deux verbes est tellement important si nous voulons éviter les pièges de Satan. Qui adore, sert. Qui sert, adore. On ne peut pas seulement adorer sans servir. Adorer sans servir, c'est être un simple spectateur, un simple consommateur, qui lève les mains vers le ciel pour chanter, mais qui ne prend pas le chemin de l'obéissance. Le chemin de la croix dont on parlait tout à l'heure. C'est prendre le risque, adorer sans servir, de se servir d'abord avant de servir Dieu. Notre service est donc intrinsèquement lié à notre adoration. C'est une manifestation concrète de notre adoration, de notre amour pour Dieu. De même, on ne peut pas servir sans adorer Dieu. Là, c'est un autre piège. Là, c'est prendre le risque de se servir, de servir quelqu'un d'autre, de servir un intermédiaire, de servir le pasteur, de servir le responsable d'un service. On fait ça pour être bien vu, on fait ça pour plaire à quelqu'un. Non, on sert pour plaire à Dieu et à Dieu seul. C'est notre adoration qui va donner tout son sens à notre service et qui va nous protéger justement de toute compromission. Ce verset est l'estocade ultime qui met un terme à toutes les attaques de Satan. Où qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, ce verset conditionne tout le reste. Jésus ne gagne donc pas en utilisant sa puissance divine, mais il gagne en restant pleinement dépendant de Dieu et de sa parole. C'est comme ça qu'on résiste aux tentations, en revenant sans cesse à sa parole. En conclusion, nous pouvons dire que ces trois attaques du diable n'ont pas été choisies au hasard. Elles visent les trois grandes zones de fragilité de l'être humain. Satan attaque le corps par la faim, l'âme par l'orgueil et l'esprit par une fausse utilisation de la parole de Dieu. Mais face à cette contamination invisible, la parole de Dieu ne le laisse pas dans l'ignorance. Je vous laisse ici deux versets. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rongissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Jacques est encore plus cash. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Souvent ce terme, en bon prof d'histoire, hein, moi je pense à De Gaulle, à Jean Moulin, je me dis qu'il faut une force de caractère incroyable pour être un résistant. Mais là, Jésus nous montre que rien n'est impossible. Les choses paraissent finalement simples en lisant ce passage. Trois versets, trois répliques, trois estocades et un « Va-t'en, Satan ». Le Seigneur nous montre comment demeurer entièrement soumis au Père, comment être rempli de la parole de Dieu. Ce n'est pas un super-héros à la Marvel que nous voyons dans ce passage, qui va battre le grand vilain avec des super-pouvoirs. Je ne vois rien d'impossible en lisant ce passage de Matthieu 4. Et ça m'encourage à lire, à apprendre encore plus de versets, à me reposer entièrement sur l'épée de la parole et son esprit. C'est comme ça que je pourrai résister au diable. J'espère que cela vous a aussi encouragé. Et n'oubliez pas qu'au final, ce n'est pas notre capacité à résister qui comptera. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la victoire déjà acquise par Jésus. Il a déjà tout accompli. Prions. Notre Père, toi qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ta volonté soit faite. Ta volonté et non la mienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Tout dépend de ta grâce, Seigneur. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne permets pas qu'on succombe à la tentation. Que ta parole soit notre épée, afin que nous puissions résister au piège de l'ennemi. Délivre-nous du mal, Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.